Amen. Je vous propose qu'on reste encore un peu dans ce chant, dans cette prière, dans ce Notre Père que nous avons vraiment saisi encore un peu plus. Il y a des profondeurs dans cette prière, et vraiment que nous puissions prendre un temps, si nous pouvons fermer les yeux, et vraiment que nous puissions encore nous délecter de cette prière. C'est une prière qui est notre nourriture, une prière qui nous amène à nous recentrer sur qui nous sommes, à nous recentrer face au Père. C'est Jésus qui nous apporte cette prière, une prière qui est profonde, une prière qui sort de son propre cœur. C'est le Fils qui nous montre comment prier. C'est le Fils qui nous montre comment avoir cette relation avec le Père. Alors oui, que ton nom soit sanctifié. Seigneur, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans les cieux. Jésus, tu nous montres cette voie parfaite, cette voie par excellence. Tu nous montres à quel point il est facile de marcher avec toi. Même si chaque jour il peut y avoir des difficultés que nous pouvons rencontrer, il y a un chemin qui est devant nous, un chemin étroit. Mais facile, les efforts ont déjà été faits. C'est Christ qui est mort pour nous, afin que nous soyons réconciliés avec le Père. Mangeons encore cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié nous amène sur une réalité qui est très simple. C'est dans les cieux, le nom est déjà sanctifié, le nom de Dieu est déjà sanctifié, mais pour nous, nous avons besoin de le prier. C'est pour notre vie que nous le prions. Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que nous puissions dans nos vies respecter ton saint nom, que nous puissions honorer qui tu es réellement, Seigneur. Que ton nom soit sanctifié. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur nous encourage à vivre depuis 2000 ans une vie nouvelle avec lui. Cette vie nouvelle, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une vie nouvelle pour plus tard? Si c'était que le cas, ce serait un peu triste pour nous aujourd'hui. Ça serait aussi triste pour toutes ces personnes qui ont été sur la terre depuis 2000 ans, qui ont rencontré le Seigneur, qui ont été réconciliées avec le Père. Par la mort de Jésus-Christ. Qu'avons-nous à vivre aujourd'hui? Quelle est cette réalité que Jésus est venu apporter? Jésus était un homme un peu particulier qui s'est dépouillé de ce qui faisait de lui Dieu en termes de pouvoir. Il est venu dans l'humilité, il est venu afin de vivre la vie humaine comme vous et moi. Et c'est cet élément-là, pour moi, qui est déterminant, qui a transformé littéralement ma vie il y a quelque temps. C'est le fait que Jésus n'était pas Superman, mais qu'il est venu apporter une réalité dans laquelle nous pouvons rentrer, un modèle parfait par excellence. Il a dit cette phrase, moi, qui me met un petit peu hors de moi, sur mes propres capacités. Mais c'est, je pense que le Seigneur savait quand il a dit ces phrases-là. Le Seigneur a dit, vous ferez les mêmes choses que moi, et même les plus grandes. Alors on a essayé de décortiquer ce passage en disant, oui, il parlait sûrement géographiquement, c'est-à-dire que Jésus, il est venu pour apporter quelque chose de nouveau à Jérusalem, en Galilée, pour le peuple juif d'abord, et avec peut-être certaines personnes autour, la Samaritaine, etc. Donc nous, ça nous conforte, on se dit, du coup, ça correspond à nous aller plus loin, aller peut-être à la frontière, de l'autre côté, peut-être même d'aller à l'autre bout de la terre. Ok, merci Seigneur, c'est bon, on a fait des choses plus grandes que toi. Mais est-ce qu'on a vraiment tout compris? Il y a cette réalité dans laquelle Jésus nous montre comment lui fonctionne. Il nous montre qu'il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Il nous montre que nous pouvons faire de même avec lui, que nous pouvons pratiquer les choses qu'il a faites. Sinon, à quoi bon rester ici sur la terre ? Alors on pourrait dire, notre vie sur la terre a un sens, celui de pouvoir parler du Seigneur afin que d'autres également rentrent dans le salut, rentrent dans la réconciliation avec Dieu. C'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Jésus a parlé de la vie éternelle. Souvent, on va parler de la vie éternelle en disant la vie éternelle, c'est après la mort, nous avons la vie éternelle. Et Jésus, il ne dit pas que la vie éternelle, c'est pour après la mort. Il va définir la vie éternelle comme étant connaître Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Alors déjà, moi qui aime bien que les choses soient très carrées, qu'à un moment donné, il y ait l'étape A, puis l'étape B, puis l'étape C, moi ça me chagrine un petit peu. Je me dis, dans ce cas, la vie éternelle, ça commence quand alors ? La vie éternelle, elle s'expérimente dans une relation de connaissance, d'apprentissage, de communion avec Dieu. La vie éternelle est en Dieu. Dieu est la vie éternelle. Il l'est par nature. Il est la vie. Alors dans ce cas, moi, si je veux avoir la vie éternelle, je n'ai pas le choix. Il faut que je me colle à celui qui est la vie. La vie éternelle n'est pas juste un ticket que je reçois pour plus tard. La vie éternelle n'est pas uniquement quelque chose qui va pouvoir être accoché sur mon petit cahier de choses que j'ai accomplies dans ma vie. Ok, c'est bon, je suis allé à tel endroit, j'ai fait ça dans ma vie, et donc c'est bon, j'ai la vie éternelle, ça c'est réglé. Non, la vie éternelle n'est pas un objectif à cocher et à régler une fois pour toutes dans sa vie. La vie éternelle est quelque chose qui se travaille jour après jour. C'est une communion jour après jour. La vie éternelle, je l'ai parce que je connais jour après jour celui qui est la vie éternelle. C'est une communion jour après jour. Jésus, pleinement homme, pleinement Dieu, vivait dans une communion parfaite avec le Père. Il n'y avait pas de séparation, il le dit lui-même, celui qui m'a vu a vu le Père. Il n'y a pas de séparation, il n'y a aucune séparation. Et dans cette vie sans séparation, Jésus nous montre que parfois, il demande juste quelque chose à faire et le miracle se produit. C'est bizarre quand même. Nous, on aimerait que Jésus ait des super-pouvoirs et comme ça, on attend juste que Jésus intervienne avec des super-pouvoirs. Mais Jésus, dans son humanité, le modèle qu'il nous a montré est un modèle de soumission avec le Père. Il est soumis à Dieu, il nous encourage à être soumis à lui pour qu'ensemble, nous faisons. Et qui est-ce qui fait tout ? C'est Dieu. C'est un peu choquant quand même. Mais ça veut bien dire que du coup, nous n'avons aucune gloire à retirer de quoi que ce soit. Si je fais quelque chose de bien, je dois à Dieu. Si je parle bien, je dois à Dieu. Si je chante bien, je dois à Dieu. Si mon cœur est tourné vers l'autre, je le dois à Dieu. C'est-à-dire que même les choses où je pourrais me dire, mais finalement, c'est un peu ma nature quelque part, je le dois à Dieu. Chaque chose qui m'anime et qui correspond au cœur de Dieu, c'est de Dieu. À moi de le mettre en soumission pour que Dieu puisse l'utiliser à sa gloire. Nous avons tous reçu à la naissance des dons. Tous. Qu'en faisons-nous ? On pourrait dire, mais dans le monde aussi, ils ont des dons, même ceux qui ne croient pas en Jésus, ils ont des dons, c'est vrai. Et parfois, ils les font fructifier de manière exemplaire. Parfois, ils travaillent même à la justice avec leurs dons. Ils travaillent à l'équité avec leurs dons. Ils apportent la paix avec leurs dons. Alors, qu'est-ce que nous avons de plus ? Nous avons l'auteur avec qui nous pouvons avoir une relation, une communion. Et qui nous donne des dons encore plus grands. Un élément qui m'a aussi beaucoup interpellé, c'était, je croyais que tout était une question de ma croyance, de qu'est-ce que je crois. Au final, ça ne change pas Dieu. Peu importe ce que je crois, ça ne change pas Dieu. Mais ce que je crois va avoir un impact sur ma vie et sur ce que le Seigneur peut faire avec moi. Si je crois que je suis limité et que j'attends juste d'être auprès du Seigneur, ma vie, l'expression de ma vie, l'expression de Dieu dans ma vie va aussi être limitée à ça. Ça sera merveilleux. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus ? La dimension dans laquelle le Seigneur nous fait rentrer, l'apôtre Paul en parle dans une lettre qu'il va écrire à l'église des Colossiens au chapitre 2. Il parle de recevoir le Christ. Il dit, lorsque vous avez donné votre vie au Seigneur, lorsque vous avez accepté la mort et la résurrection de Jésus, alors vous avez reçu le Christ. Il dit, vous l'avez reçu en vous. On va prendre le passage ensemble. Aussi, puisque vous avez reçu le Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Donc, tout de suite, il dit, Paul, il nous enseigne sur le fait que notre vie, après avoir reçu le Christ, est une vie qui se vit en étant unie à lui. Ce n'est pas une vie que je reçois de mon côté, où Dieu est au ciel, et moi je suis sur la terre, à essayer avec mes petits efforts, à finalement peut-être essayer de prouver à Dieu qu'il a bien eu raison de... Tout ce que je fais n'apportera jamais une preuve suffisante, un mérite quelconque pour que le Seigneur m'ait choisi. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Si Jésus a donné sa vie, il l'a fait pour que je n'ai rien à mériter. Comme ça, au moins, c'est bon, ça c'est réglé. Au verset suivant, il nous dit « Enracinez-vous en lui ». Construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la loi, à la foi, pardon, conforme à ce qu'on vous a enseigné. La foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. Attachez-vous de plus en plus fermement à la foi. Cette foi, c'est quoi ? Cette foi, c'est que je suis uni à lui. Cette foi, c'est que je ne peux rien faire sans lui. Cette foi, c'est que quand je marche, quand je cherche à faire les œuvres que le Seigneur me donne à faire, si je fais par mes propres forces, je vais arriver au bout de moi-même. Mais si je marche en étant en collaboration avec le Seigneur, je vais voir des choses extraordinaires. Il y a cet encouragement pour la vie de tous les jours. On pourrait dire, mais ça concerne uniquement peut-être les choses spirituelles. Mais pour Dieu, tout est spirituel. Puisque lui est spirituel, il a tout créé, donc tout est spirituel. Il n'y a rien qui échappe à son contrôle, rien qu'il n'ait créé. Donc tout est spirituel. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Notre cœur, naturellement, quand nous marchons avec le Seigneur, uni à lui, il y a une reconnaissance qui jaillit. C'est un encouragement pour la vie de tous les jours. C'est un encouragement pour que nous puissions vivre unis au Seigneur en acceptant juste par la foi que ce qu'il dit est vrai. Je n'ai pas à essayer de me prouver que c'est vrai. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est saint Augustin, je crois qu'il disait « Crois d'abord, tu comprendras après ». C'est bien saint Augustin, Marie-Jo, je ne sais plus. C'est ça. Crois d'abord, tu comprendras après. La foi commence, l'intelligence suit. Souvent, nous, cartésiens, français ou occidentaux, on a vraiment envie de tout comprendre avant de croire. Tant que je n'ai pas compris, je ne pourrai pas croire. Le Seigneur, il nous dit juste crois et tu verras. Crois d'abord et tu verras. Alors, il y a beaucoup de choses à croire, mais que croire et qui croire? Nous pouvons croire les personnes qui ont expérimenté une vie avec le Seigneur et dont leur témoignage parle. Nous avons énormément de témoignages dans la Bible de personnes qui ont marché avec le Seigneur et dont leur vie parle. Le premier dont la vie parle, c'est Jésus. Sa vie était exemplaire. Même les musulmans reconnaissent qu'il est sans péché. Même les musulmans reconnaissent que sa naissance est miraculeuse. Même les musulmans reconnaissent qu'il est parole de Dieu. C'est écrit dans le Coran, ça c'est, au cas où vous posiez la question, c'est écrit dans le Coran que Jésus est parole de Dieu. Maintenant que vous savez ça, qu'est-ce que vous en faites? Maintenant que je le sais, qu'est-ce que j'en fais? Si Jésus est parole de Dieu, qu'est-ce que ça m'apprend aujourd'hui? Ça m'apprend que j'ai besoin de Jésus pour entendre ce que Dieu a à me dire. Ça veut dire que quand j'ouvre la Bible, ce n'est pas un livre magique. J'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de lui. J'ai besoin d'être uni à lui. Parce que je sais que c'est en comprenant un peu plus qui il est que je connaîtrai un peu mieux son cœur et que je saurai finalement du coup quelle est là cette réalité. Cette réalité de « vous avez reçu le Christ ». Verset suivant, c'est « Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions toutes humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde, mais non sur le Christ. » Quand nous cherchons par nous-mêmes à expliquer Dieu, on arrive sur des impasses, des choses compliquées, des choses où finalement, du coup, il faut avoir fait beaucoup d'études pour pouvoir expliquer Dieu. Et même encore là, on pourrait se dire je pense peut-être que Dieu n'existe pas, peut-être que Dieu existe selon un certain modèle que moi j'ai décidé. On arrive sur des conflits de pensée, des conflits de raisonnement, où chacun pense avoir raison sur des choses qu'il ne comprend même pas. Qui peut expliquer l'amour? Je pense que si chacun de nous on parlait de l'amour ce soir, on en parlerait tous de manière différente. Non pas parce qu'on sait ce qu'est l'amour, mais parce qu'on l'a expérimenté, parce qu'on l'a connu d'une certaine manière, parce que l'amour s'est manifesté en nous d'une certaine manière. Jésus s'exprime de différentes manières. Jésus est le même depuis toujours et le restera pour toujours, mais la relation qu'il a avec chacun est précieuse. C'est une relation que personne ne peut nous enlever. C'est cette révélation-là que Jésus vit en nous, qu'il développe un amour pour lui en nous, qu'il nous parle, que nous pouvons lui partager tous nos soucis, notre vie, même les choses parfois les plus, peut-être qu'on a envie de lui cacher parce que du coup on a un peu honte. En discutant tout à l'heure, on disait vraiment, mais il ne faut pas hésiter à tout lui dire au Seigneur. De toute façon, qu'est-ce qu'il ne sait pas déjà ? Il sait quand je me lève, il sait quand je me couche, il sait ce que je fais devant tout le monde, il sait aussi ce que je fais lorsque personne ne voit. Qu'est-ce que je peux lui cacher? Alors lorsque je vis des moments difficiles, pourquoi est-ce que je vais lui cacher? Semblerait-il que ce n'est pas suffisamment sain de lui parler de mes problèmes? Et quand je suis dans la joie, est-ce que du coup c'est le moment particulier où je peux enfin lui parler? Si j'apprends à partager mes doutes, mes joies, mes peines, mais aussi mes encouragements, c'est dans ces moments-là où je vais sentir son amour. Et pas uniquement peut-être un amour qui sera conditionné au moment seul où je serai le plus saint possible, le plus parfait. C'est aussi lorsque je suis au plus bas de moi-même que je peux expérimenter l'amour du Seigneur. Cet amour se manifeste jour après jour. Au verset 9, on lit « Car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. » Ça, c'est pour tous ceux qui veulent apprendre à connaître Dieu par leur propre raisonnement. J'ai besoin du Seigneur, j'ai besoin de Jésus, parce que c'est en lui qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. C'est-à-dire qu'à mesure que je vais apprendre à connaître le Christ, je vais comprendre, découvrir ce qui est Dieu pleinement, puisque Dieu a tout mis en lui. Ça, c'est quand même merveilleux. Et la clé, elle est au verset 10. Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. Et on continue, c'est aussi dans l'union avec lui que vous avez été circoncis, non d'une circoncision opérée par les hommes, mais de la circoncision que demande le Christ et qui consiste à être dépouillé de ce qui est de ce qui fait l'homme livré à lui-même. On reprend ça un petit peu. Cette union avec le Seigneur, c'est une union où nous sommes pleinement comblés, où il est le chef de toute autorité et de toute puissance. C'est une union où nous avons été circoncis, où nous avons été retranchés du péché, nous avons été retranchés de ce qui faisait que nous étions séparés de Dieu. Il y a quelque chose de précieux dans ce que le Seigneur fait dans nos vies. Le Seigneur travaille dans nos vies afin que nous soyons à sa ressemblance, afin que nous fassions ce qu'il fait, afin que nous soyons ce qu'il est. La clé, c'est toujours lui. La clé, c'est sa réalité de lui en nous. La clé, c'est qui je suis en lui. Aujourd'hui, sur la terre, je peux encore rencontrer des problèmes, des difficultés, des persécutions, même peut-être des choses qui me piègent encore. Mon assurance, c'est que comme Jésus vit en moi, comme j'ai été détaché de qui j'étais avant, je peux donc lui faire confiance pour croire ce qu'il dit sur moi. Et quand Paul nous parle que nous sommes des nouvelles créatures, qu'en Christ nous sommes des nouvelles créatures, ça veut dire que je suis quelqu'un de nouveau. Et je peux donc marcher dans cette nouveauté, dans cette réalité nouvelle. Christ aujourd'hui, il est au ciel, Jésus est à la droite de Dieu, après être monté, et par son esprit, il vit en nous. C'est-à-dire que la réalité de là où est Christ, c'est à la fois dans le ciel et sur la terre. Il y a une réalité particulière qui peut sembler un peu perturbante pour nos intelligences, mais nous pouvons simplement faire confiance que le Seigneur, ce qu'il dit, c'est vrai. Donc il est dans le ciel et sur la terre. En lui, tout est réconcilié, ce qui est dans le ciel et sur la terre. Et tout le sera définitivement lorsqu'il reviendra. Ça, c'est notre espérance. Nous marchons avec cette espérance que lorsque Christ paraîtra, alors nous aussi nous paraîtrons. Nous serons visiblement pour tous manifestés comme étant de sa nature. Et ça, c'est notre espoir, notre espérance qui nous nourrit jour après jour. Mais pour ce qui est à faire les choses tous les jours sur la terre, est-ce que j'ai à me débrouiller? On en revient encore à cette histoire de « est-ce que j'ai encore à me débrouiller ?» Il y a beaucoup de choses pour lesquelles j'ai une tendance, c'est « je fais ce que je pense être le meilleur ». Dans cette réalité nouvelle de qui je suis en Christ, je peux simplement me reposer en lui pour chercher sa volonté. Je n'ai pas besoin de faire des grandes prières comme il vit en moi. Je n'ai pas besoin de le faire descendre. Et comme je vis en lui, je n'ai pas besoin de me faire monter. Je suis déjà connecté à lui. C'est cette connexion qui détermine tout. Et souvent, on va prier avec intensité pour des choses, ce n'est pas mauvais. Mais pour d'autres décisions, nous avons aussi besoin de faire confiance au Seigneur afin qu'il nous parle simplement dans notre vie de tous les jours. Notre part, c'est de réaliser cette réalité-là. Chaque jour, c'est à moi de me dire, « Ok, Pierre-Antoine, rends-toi disponible pour faire la volonté du Seigneur. Reste à l'écoute, sois attentif. Ne te laisse pas distraire. » Et puis de prier en disant, « Seigneur, montre-moi. J'ai besoin que tu me montres jour après jour. J'ai besoin que tu montres aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une personne avec qui tu veux que je parle ? Est-ce qu'il y a une personne avec qui tu veux que je prenne du temps ? Est-ce que tu veux que je donne aussi de mes finances, de mes ressources, de quelque chose peut-être qui me coûte ? Est-ce que tu veux que je partage quelque chose que tu m'as confié ? Est-ce que tu veux que j'encourage aussi peut-être un voisin, une voisine ? Est-ce que tu veux que j'encourage un vacancier sur la plage ? Ou mon collègue de travail ? Est-ce que tu veux que j'encourage quelqu'un qui a profondément besoin de toi ? Parmi les œuvres que le Seigneur faisait, il y avait des guérisons, des démons qui étaient chassés. Est-ce que je peux encore, moi aussi, le faire aujourd'hui, par le Christ qui vit en moi ? Ou est-ce que je reste un peu bloqué par des concepts ? Ou peut-être ai-je aussi un peu perdu la foi à ce niveau-là ? Seigneur, montre-nous ce que tu fais déjà aujourd'hui. Il y a des gens dans le métro, si nous sommes attentifs à eux, le Seigneur est en train de les travailler. Et il attend qu'un de ses fils, qu'une de ses filles, soit disponible pour une parole, pour un geste. Je vous partageais une petite expérience que j'ai vécue. J'étais dans le métro et il y avait une dame qui, je pense, était très agitée par différentes substances et qui faisait beaucoup de bruit, gênait un peu tout le monde et s'était mis un peu en grippe une autre dame qui était assise et qui, tout de suite, on pouvait sentir qu'elle était très vulnérable et pas du tout à l'aise avec cette personne qui lui tournait un peu autour. Cette dame a commencé à crier, à hurler en disant à l'autre de partir, sinon elle allait appeler la police. La seule chose qui m'est venue quand elle a mis les mains sur l'alarme, c'est « Oh non, je vais rater mon train. » Alors s'est levé un monsieur, peut-être dans la soixante-dizaine, qui est arrivé vers la dame qui était très agitée, et qui a commencé à lui parler pour la calmer. Puis il s'est retourné vers celle qui était un peu apeurée, et il lui a parlé aussi pour la calmer. Et tout en lui parlant, il glissait quelques petits mots d'amour. Il glissait que le Seigneur les aimait. Il leur demandait de prendre le temps, de se calmer, de ne pas empêcher en fait, du coup les autres de vivre leur vie. Et l'autre, qui était un peu dans la panique, de ne pas se laisser submerger par la peur, mais de rester tranquille. La première chose que j'ai pu penser, c'est un ange. La deuxième, c'est ça aurait dû être moi. Au final, il a fait sortir la dame qui crée du trouble, tout en lui disant que le Seigneur l'aimait. C'est pas grand-chose. Ce monsieur, peut-être qu'il a, il a risqué peut-être beaucoup de se faire taper, peut-être même d'être regardé par tout le monde, ben d'ailleurs c'était le cas, mais son témoignage finalement était plus fort que tout ce qu'on peut raconter, toutes nos belles paroles. Moi, son action m'a remise un peu en place, m'a remis un peu en place et m'a posé plusieurs questions sur moi-même, sur la place que je laisse au Seigneur de pouvoir s'exprimer à travers moi, même lorsque finalement je ne suis pas dans mon confort. On aimerait toujours que Dieu s'exprime là où ça va bien pour nous, là où on n'a pas trop de choses à faire, ou là où il n'y a pas trop de risques. Mais le Seigneur a accepté d'aller très loin, il allait au maximum. Quitte à se faire insulter, quitte même à être traité de fou par sa famille, quitte à se mettre des gens à dos, quitte à avoir parmi ses amis des gens qui l'ont trahi, il est allé au bout. Et moi, Pierre-Antoine, j'ai peur que d'un seul coup, on puisse penser des choses bizarres de moi, parce que je me serais levé pour aller parler à deux personnes qui peut-être allaient mettre tout le wagon un peu en branle, mais au final, qu'est-ce que ça m'apprend ? Ça m'apprend que j'ai encore besoin de connaître Jésus. J'ai encore besoin de le laisser grandir en moi. J'ai encore besoin de passer du temps avec lui. J'ai encore besoin qu'il me montre et que j'ai sa paix, que je sois dans la paix et la confiance. Cette union, ce n'est pas une union pour laquelle nous pouvons faire des choses. C'est une union qui existe déjà. Si vous acceptez Christ, l'union est faite. Il n'y a rien que vous puissiez qui puisse rajouter à l'union. La seule chose que vous pouvez faire, et que nous pouvons tous faire, c'est expérimenter cette union. Parfois, nous passons une journée complète dans notre tête déconnectée de cette union, ne permettant pas ni à nous, notre être intérieur, ni aux personnes autour, de bénéficier de cette union. Et le soir, on arrive et on fait une prière rapide au Seigneur. « Pardon Seigneur, pardon Seigneur, j'espère qu'au moins là je suis en règle et que si tu reviens cette nuit, je serai avec toi. » On rentre parfois dans des mécanismes de culpabilité. On se culpabilise pour des choses parce qu'on a peur. On a peur que lorsque le Seigneur revient, on ne soit pas avec lui. Mais si j'ai la confiance que cette union, elle est là, et que j'ai le droit à l'erreur, et que lorsque je me trompe, je peux mettre un genou à terre et dire « Seigneur, pardon ». Et maintenant que la chose est passée, Seigneur, apprends-moi vraiment, parce que je veux vraiment que demain soit différent. Notre prière ne doit pas être uniquement une prière tournée vers nous, mais une prière qui, à partir de cette union, se tourne vers les autres. La clé, toujours, c'est lui. La clé, c'est l'union avec lui. La clé, c'est que nous sommes séparés de notre nature qui, avant, faisait qu'on était rebelles au Seigneur. Alors oui, parfois, c'est difficile. Il y a toujours des choses qui nous font envie. Il y a toujours des choses pour lesquelles on sent bien qu'on a une petite faiblesse. Eh bien, disciplons-nous. Soyons disciplinés. Avec le Seigneur. Si je ne laisse pas le Seigneur me discipliner, je vais encore, moi, essayer par mes propres forces. Et ça va tenir un temps. Et le jour où tout s'effondre, finalement, ben, c'est ce moment-là où je serai encore plus dépité. Le plus éloigné même de cette réalité. Je crois que notre encouragement, c'est que chaque jour nous puissions dire « Seigneur, merci pour l'union que j'ai avec toi. Merci pour la communion que j'ai avec toi. » Il y a cette histoire avec Marthe et Marie. Pour ceux qui la connaissent et puis pour ceux qui ne la connaissent pas, ça permet du coup de la découvrir ou de la redécouvrir. Marthe et Marie sont deux sœurs. Jésus est avec elles dans leur maison. Et ils partagent. Ils partagent des merveilles du royaume de Dieu. Ils partagent ce qui est sur son cœur. Marthe est en train de s'affairer en cuisine, ménage, peut-être à d'autres choses. Peut-être qu'elle bricole quelque chose, on ne sait pas. Peut-être qu'elle est en train de bricoler un petit tabouret pour que Jésus soit bien. Peut-être qu'elle a de très bonnes intentions. Ça nous encourage aussi à regarder dans nos vies là où on a de bonnes intentions pour le Seigneur. Et elle dit à Jésus, « Mais dis à ma sœur, qui est juste devant toi, là, qui ne fait rien du tout, dis-lui de venir m'aider. » Et Jésus lui dit, « Calm down. » Regarde, ta sœur a choisi la meilleure part. Il y a des moments pour contempler le Seigneur. Il y a des moments pour ne rien faire, de ne pas s'affairer, de ne pas tomber dans l'activisme. Même si on a des bonnes choses qui sont sur nos cœurs, qu'on a envie de faire des choses pour le Seigneur, parfois il faut s'arrêter. Le temps du repos que le Seigneur nous donne, ce temps de Shabbat que le Seigneur nous donne, c'est un temps aussi pour s'arrêter. C'est un temps pour reconsidérer notre vie, notre semaine, un temps pour reconsidérer ce que nous avons, un temps pour s'émerveiller de la présence de Dieu. Nous pouvons nous émerveiller de la présence de Dieu tous les jours, mais ces moments-là sont des moments privilégiés. Des moments où, en contemplant le Seigneur, nous sommes encouragés à juste l'écouter. On n'a rien à faire. On n'a rien à faire. Ce sont des moments de communion, des moments où juste on est comme, ça peut être avec son propre père ou avec son propre ami, avec quelqu'un d'intime. Nous pouvons nous asseoir et partager un moment, juste partager un moment. Ces moments de communion, ces moments de partage, on peut l'avoir peut-être une fois par semaine, c'est possible. Si on l'a une heure par semaine, parfois on est bien content. Il n'y a pas de se rendre coupable de quoi que ce soit. Maintenant que nous réalisons que nous vivons dans une communion avec le Seigneur, nous pouvons vivre ces moments, même une minute par jour, même une minute toutes les heures. C'est des moments où je peux m'arrêter dans ce que je fais, des moments où parfois j'ai le sentiment un peu de m'agiter. Avec toutes les bonnes intentions que je peux avoir encore une fois, ce n'est pas ça le problème. Mais c'est des moments où je peux juste faire une pause. Et c'est quoi une minute dans une heure? Est-ce que pendant cette minute-là, je peux juste la consacrer au Seigneur en disant « J'arrête, je fais une vraie pause, je mets sur pause là toutes les pensées qui partent dans tous les sens, je les rends captives à tes pensées à toi, Seigneur, je les rends captives à ta réalité, à qui tu es, et juste, je veux juste profiter de ce moment avec toi, en fait. » C'est juste un moment où on est juste là, tous les deux, et je t'écoute, toi, dans le plus profond de mon être. Mes oreilles sont à ton écoute, mon esprit est à ton écoute. Parle, parle, Seigneur. Puis demain, ce sera peut-être 2 minutes. Puis un jour, vous aurez tellement envie de revivre ces moments que peut-être là, vous allez prendre une demi-heure complète. Il n'y a pas de règle, il y a juste un cœur. Ce qui fait toute la différence, c'est aujourd'hui. Si aujourd'hui je veux passer un moment avec toi, Seigneur, donne-moi l'envie de passer ce moment avec toi et que je puisse déconnecter de quelque chose peut-être qui est en train de m'empoisonner. Ça peut être des réflexions sur mon avenir, ça peut être même une attente pour des promesses que tu m'as données il y a peut-être des années. Ça peut être aussi peut-être à expliquer quelque chose à un ami, à un frère, à un voisin, des choses même sur toi, Seigneur. Il y a peut-être des choses que je veux expliquer, je suis en train de m'emmêler les pinceaux, Seigneur. Je veux juste prendre un temps pour t'écouter. Et même si tu n'as rien à me dire, je veux juste profiter de ta présence, juste profiter de qui tu es en moi. C'est juste un moment où il ne peut parfois rien se dire. Ça peut être un moment de silence partagé où juste on contemple l'agneau. On contemple le Seigneur. On prend ce moment et ce moment, il sort du temps. C'est un moment d'éternité. C'est un moment qui n'a pas de prix. Car c'est en lui C'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité, de toute puissance. Oui, Seigneur. Je propose qu'on prenne un temps pour vivre ce moment, vivre cette réalité. Un temps où juste, ça peut être dans le silence, ça peut être dans une prière dans votre cœur, ça peut être dans un parler en langue, ça peut être dans une expression, une louange adressée au Seigneur de manière auditive, de manière expressive, ça peut être un moment, voyez. Mais qu'ensemble nous puissions chacun vivre ce moment d'intimité avec le Seigneur, un moment où nous nous recentrons sur qui il est en nous.